C'est dans une ambiance chaleureuse et fraternelle que s'est déroulé le congrès mission ce week-end du 28-29 septembre à Navarinx. Plusieurs centaines de personnes venues du coin, mais aussi de nombreux endroits du diocèse, se sont retrouvées sur les deux jours pour prier, échanger, écouter et réfléchir sur le sujet de la mission. Ateliers, témoignages et tables rondes étaient proposés, ainsi que des stands, des propositions pour les enfants, une veillée et un dîner qui ont permis de vivre de véritables moments de grâce. Donc je suis avec deux jeunes filles. Vous pouvez me dire votre prénom ?
Moi je m'appelle Chloé.
Et moi je m'appelle Luna. Je fais partie de la paroisse de Navarinx, je suis animatrice. Et donc j'étais mise au courant qu'il y avait le congrès mission. Et vu qu'il y a des personnes que je connais qui font partie de l'organisation de ce week-end, ils m'ont invitée, je suis venue et j'ai invité ma copine Chloé qui vient d'Oloron pour lui faire découvrir ce que c'était le congrès mission.
Et donc qu'est-ce que vous avez fait là depuis tout à l'heure ?
Ben, on a aidé la veille déjà et ce matin à préparer et voilà, c'est tout pour l'instant.
Et vous êtes croyante toutes les deux ou...
Oui, croyante et pratiquante.
Et quand tu dis tu es animatrice, ça veut dire quoi exactement ?
Ben, certains dimanches du mois, je suis au micro et j'ai un organiste ou une organiste avec moi et je mène les chants pour le peuple.
Et alors donc là, ce congrès mission, est-ce que c'est ce que vous imaginiez ?
Oui, exactement. Je suis très contente parce je pensais qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de monde, vu que Navarinx c'est quand même un village un peu perdu. Et non, au contraire, il y a eu du monde et c'est bien, il faut faire bouger un peu l'église.
Toi, Chloé, ça te plaît ce que tu as vu pour l'instant ?
Moi, ça me surprend un peu, parce que déjà pour le repas et tout ça, il y a plus de 200 inscrits, alors que les petits villages, on est un peu perdus en plein milieu de la campagne ou les églises, mais ça intéresse... Peut-être plus les personnes âgées que les jeunes, et au final, il y a pas mal de jeunes, donc je trouve ça bien.
Alors, vous venez de quel endroit, de quelle paroisse ?
De la paroisse de Sauveterre Navarinx.
D'accord, donc vous êtes ici sur cette paroisse. Oui. Comment vous avez été amené à vous impliquer dans le congrès mission ? Là, je vois que vous avez une pancarte, donc ça veut dire que vous participez un peu à l'organisation ?
Oui, tout à fait. Je suis très proche du groupe qui a mis en place le congrès mission. Et mon mari a fait partie de l'organisation. Et voilà, aujourd'hui, j'aide... Je fais ce que je peux aussi pour aider sur place à guider les personnes grâce à cette pancarte notamment.
Et comment vous avez fait pour motiver autant de personnes à venir ? Il y a quand même du monde là.
Oui, effectivement. Bah, c'est passé par les réseaux sociaux, c'est passé par des flyers, par d'autres événements aussi, le Festival du cinéma chrétien, par le biais des écoles, à la sortie de la messe aussi, les flyers.
Voilà. Et qu'est-ce que vous espérez alors de ce congrès, le premier à Navarinx ?
Magnifique que ce soit à Navarinx. Et ben, on espère qu'il y a un message que chacun va réussir à porter à la sortie du congrès et que chacun va réussir au sein de sa paroisse, de sa communauté, que ce soit la famille, les amis, l'église, le village, la ville. Que le message d'amour et de fraternité passe.
Vous pensez que ça va changer des choses ? Ça va peut-être changer la vie de certaines personnes ? Ou c'est un peu trop fort peut-être de dire ça mais...
Non, je pense qu'on sème des graines à chaque fois. Je suis certaine que les cœurs réchauffés vont passer un message, c'est certain.
Le dimanche, la messe était présidée par Mgr Marc Hayet, dont voici l'homélie.
Quelle joie, frères et sœurs, je dirais même quelle fierté de pouvoir participer à ce congrès de mission local, le premier, et le seul, cette année. Et quelle action de grâce je veux faire monter vers le Seigneur pour cette équipe de paroissiens, de Navarinx, Indico, qui avec évidemment le soutien et la bénédiction de leur curé et de leur prêtre, ont organisé et sont entrés dans cette folle aventure d'organiser un congrès mission qui rassemble, je le vois, beaucoup de fidèles de tous les âges. C'est un beau visage de l'Église où tout le monde a sa place. C'est magnifique parce que ce congrès local, qui pourrait n'être que paroissial, finit par avoir une dimension diocésaine. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir présider cette Eucharistie, qui n'est pas la messe de clôture, mais qui est la messe d'envoi. Parce que pour prêcher l'Évangile, pour annoncer l'Évangile, il faut être envoyé. Il faut être missionné. Je sais que le thème général des congrès missions qui se sont tenus à Paris ou dans les grandes métropoles depuis quelques années, c'est toujours le même depuis le Concile Vatican II. Proposer ou annoncer l'Évangile dans la société actuelle. L'Évangile et la société actuelle, une alchimie qui n'est pour le moins pas évidente. Et vous avez choisi, vous, comme thème cette année, cette parole si importante et si significative pour nos communautés chrétiennes, de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, prononcée dans le contexte de l'institution de l'Eucharistie. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Le plus grand scandale qui empêche l'Évangile d'atteindre la société actuelle, ce sont nos divisions, ce sont nos conflits, c'est le manque d'amour fraternel entre ceux, comme dit Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui appartiennent au Christ, qui croient au Christ, en particulier les petits croyants, comme Jésus les met en scène dans l'Évangile depuis dimanche dernier. Vous vous inscrivez à travers ce congrès mission dans le grand élan missionnaire qui trouve sa source dans le Concile Vatican II et son document programmatique dans l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi du pape Saint Paul VI, qu'il a signé le 8 décembre 1975. C'était au terme d'une année sainte, comme tous les 25 ans, et nous en aurons une l'année prochaine, en 2005, où nous célébrerons le 50e anniversaire de ce document programmatique de la mission de l'Église depuis le Concile Vatican II. Le pape Didi dit même dans son introduction qu'il a voulu signer cette exhortation apostolique post-synodale, la première, après un synode qui s'est penché sur la question de l'évangélisation dans le monde moderne, qui reste la question pertinente d'actualité pour nous aujourd'hui, le 8 décembre 1975, c'est-à-dire pour le 10e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II, le 8 décembre 1965, 10 ans, que tous les objectifs du Concile peuvent se réunir en un seul. Celui de rendre plus apte l'Église du XXe siècle à annoncer l'Évangile à l'humanité du XXe siècle. Et cela commande cet élan missionnaire qui a traversé toute l'Église. Il annonce ici des temps nouveaux d'évangélisation qui a donné à Saint Jean-Paul II cette expression géniale de la nouvelle évangélisation. L'expression qu'il a exprimée pour la première fois à Nowa Huta en Pologne lors de son premier voyage apostolique dans sa patrie en 1979. Une nouvelle évangélisation, nouvelle par ses méthodes, nouvelle par son langage, qui ne peut être que le langage de l'amour et de la vérité. Nouvelle par son ardeur, l'ardeur même de l'Église apostolique au lendemain de la Pentecôte. Et qui s'achève pour nous aujourd'hui, ce grand élan missionnaire, dans le document programme du pontificat de François, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, qui fait référence à un grand document qui a marqué le continent sud-américain, le document d'Aparecida en 2007, dont le pape François disait qu'il était l'évangile, ou si on dit, de l'Amérique latine. Vous êtes là pour vous réapproprier, et nous avons besoin de nous le réapproprier sans cesse, le mandat missionnaire de Jésus à ses apôtres. Je dis mandat, c'est-à-dire commandement, qui s'adresse à tous. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est-à-dire celui qui refusera de croire, quand bien même l'évangile lui aurait été dûment annoncé, sera condamné. Il en va du salut du monde. L'évangile que nous proclamons est l'évangile du salut. Vous allez partager des témoignages, des analyses aussi de notre monde d'aujourd'hui pour savoir à qui nous devons annoncer l'évangile. Vous avez partagé des initiatives missionnaires, peut-être que vous avez partagé des techniques, des méthodes qui se font jour ici ou là, dans notre diocèse ou ailleurs, pour que l'évangile puisse atteindre l'humanité d'aujourd'hui, plongée parfois dans l'indifférence, l'incompréhension et parfois même l'hostilité qui nous plonge dans la persécution. Mais, quelles que soient les techniques, quelles que soient les méthodes les plus sophistiquées, à vue humaine les plus efficaces, elles seront vaines si nous ne sommes pas portés par le souffle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le premier agent de l'évangélisation, dit le pape Paul VI dans cette exhortation apostolique, en décrivant les attitudes intérieures qui doivent animer les évangélisateurs ou les disciples missionnaires que nous sommes. L'Esprit Saint que l'on demande avec insistance dans la prière. La mission de l'Église se fonde dans la prière de l'Église. La première activité de l'Église apostolique réunie au Cénacle, c'est la prière autour de la Vierge Marie pour appeler ce don de l'Esprit Saint promis par Jésus qui propulsera l'Église apostolique sur les chemins de la mission, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités du temps, cet évangile qui nous atteint encore aujourd'hui. Comme disait le pape Benoît XVI dans une belle homélie pour la Pentecôte, pour que la Pentecôte se renouvelle aujourd'hui et en sauve la liberté de Dieu, il faut que nous soyons moins essoufflés par les activités et davantage consacrés à la prière. Et le pape François, dans son exhortation apostolique, la joie de l'évangile qui nous dit « Sans des moments prolongés d'adoration, de rencontres priantes avec la parole, de dialogues sincères avec le Seigneur, nos tâches se vident facilement de sens. Nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés et la ferveur s'éteint. L'Église ne peut pas vivre sans le poumon de la prière. » L'Esprit Saint, premier agent de l'évangélisation, l'Esprit Saint auquel nous avons tous part, chers frères et sœurs, vous êtes ici pour prendre conscience, et c'est magnifique que ce soit une équipe de laïcs responsables qui ait eu l'initiative de ce congrès mission. Tous, nous sommes des ouvriers de l'évangélisation. Nous avons tous eu part à l'Esprit. Vous avez entendu cette parole magnifique du livre des Nombres qui vient nous toucher particulièrement aujourd'hui dans notre élan missionnaire. L'Esprit Saint. Dieu avait donné, pris une part de son esprit de Moïse pour le donner à 70 autres disciples. Et ils se mirent à parler. Ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne dura pas. Et voilà que Josué, celui qui est le plus proche de Moïse, voit qu'il y a Eldad et Médad qui sont restés dans le camp et qui continuent à prophétiser. Il leur dit, mais arrêtez ! Et Moïse qui répond, écoutez cette parole qui nous touche aujourd'hui, car elle s'accomplit dans la vie de l'Église. Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, cet esprit qui avait été déposé sur ces 70 anciens de manière temporaire, qui repose sur chacun d'entre nous depuis le jour de notre baptême. Nous sommes, vous êtes un peuple de prophètes, de prêtres et de rois. Nous sommes tous prophètes, chacun dans son ordre, chacun avec sa grâce. Celui du baptême est la confirmation pour vous, celui de l'ordination diaconale ou sacerdotale pour nous. Nous sommes tous remplis de l'Esprit Saint. Depuis le jour de notre baptême, nous pouvons dire « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé annoncer l'Évangile. Ne laissez pas des spécialistes prétendus la mission d'annoncer l'Évangile à tous. C'est vous, fidèles laïcs, qui êtes aux avant-postes de la mission. C'est vous que le Christ envoie en avant de lui, dans tous les lieux, toutes les maisons, tous les quartiers, toutes les associations, partout où vivent les hommes aujourd'hui, pour aller porter l'Évangile et sanctifier, sauver l'humanité. Nous sommes un peuple de prophètes. Et à la fin de chaque messe, vous êtes renouvelés dans ce mandat missionnaire. Lorsque le diable, le prêtre ou l'évêque vous renvoie d'une certaine manière en vous disant « Allez dans la paix du Christ, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. « Ite missa est » disait-on, selon cette formule antique qui veut dire « Allez, missa, mitere, envoyez, c'est l'heure de la mission. Jésus vous envoie dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos lotissements, dans vos lieux d'études ou de travail, dans vos lieux de vie, de loisirs ou d'associations, pour annoncer l'Évangile. Mais, écoutez bien ce que Jésus dit dans l'Évangile. Alors que, après avoir guéri les malades, expulsé les démons, Jean, un peu fougueux, qui avec son frère Jacques, sera appelé fils du tonnerre, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, n'est-ce pas? Car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Et Jésus qui répond, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, c'est magnifique. » Si Jésus a confié à son Église le moyen ordinaire de rejoindre les hommes en lui confiant la plénitude des éléments de vérité et de sanctification que sont les sacrements comme le moyen ordinaire pour que l'humanité puisse accéder au salut. Il veut tellement, tellement que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la vérité, qu'il permet que des hommes qui ne sont pas des nôtres, qui sont en dehors de l'Église, puissent recevoir l'Esprit Saint pour annoncer l'Évangile du salut qu'ils ne connaissent pas, pour expulser les démons, pour guérir et consoler les cœurs qui ne sont pas loin du royaume de Dieu et qui un jour finiront par adhérer, car ils ne sont pas contre nous, mais ils sont pour nous. Et cette parole de Jésus peut-être aussi être comprise autrement. Combien de fois, au sein même de l'Église, nous refusons tel ou tel groupe ou fidèle parce qu'ils ne pensent pas comme nous, parce qu'ils n'ont pas notre histoire, parce qu'ils ne sont pas de notre sensibilité, ils ne sont pas des nôtres comme nous disons, et pourtant ils appartiennent au Christ comme nous, avec une histoire différente que Dieu a faite avec eux comme il l'a faite avec nous. La grande attitude intérieure qui doit nous animer, chers frères et sœurs, qui que nous soyons, quelle que soit notre provenance, notre culture ou notre sensibilité au sein de l'Église, plutôt que de nous opposer, de nous affronter, de nous anathémiser, c'est d'être des artisans d'unité. C'est de dire que s'ils ne sont pas contre nous, c'est-à-dire contre ceux qui appartiennent au Christ, contre le Christ lui-même, ils sont pour nous. Écoutez ce passage du pape Paul VI dans son exhortation apostolique Evangelium Sionti. La force de l'évangélisation se trouvera bien diminuée si ceux qui annoncent l'Évangile sont divisés entre eux par toutes sortes de ruptures. Ne serait-ce pas là l'un des grands malaises de l'évangélisation aujourd'hui ? En effet, si l'évangile que nous proclamons apparaît déchiré par des querelles doctrinales, des polarisations idéologiques ou des condamnations réciproques entre chrétiens au gré de leurs vues différentes sur le Christ et sur l'Église, et même à cause de leurs conceptions diverses de la société et des institutions humaines, comment ceux à qui s'adresse notre prédication ne s'en trouveraient-ils pas perturbés, désorientés, sinon scandalisés? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples, l'amour qui a été diffusé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Si nous recevons vraiment l'Esprit Saint dans la foi, l'Esprit Saint unifie. Il n'uniforme pas, il unifie, il ne divise jamais. Prenons la résolution, chers frères et sœurs, aujourd'hui même, ensemble, rassemblés dans l'unité de la foi, d'implorer l'Esprit Saint pour que nous soyons des artisans d'unité. Car Jésus a prononcé cette prière dans le chapitre 17 de Saint Jean, dite sacerdotale. Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, pour que tous croient que tu m'as envoyé. Et enfin, tous les scandales qui viennent dans l'Église, je ne parle pas seulement des abus, qui méritent en effet un traitement très particulier, mais tous les scandales qui viennent de nos incohérences, du fait que nous ne vivions pas en conformité avec l'Évangile auquel nous prétendons adhérer et que nous prétendons annoncer et proclamer dans le monde entier. Tous ces éléments de conversion que le Seigneur nous demande pour être authentiques, des témoins authentiques, qui croient vraiment ce qu'ils proclament, qui vivent vraiment ce qu'ils enseignent, et qui essaient en tout cas de le vivre en entrant dans un chemin de conversion, qui passe par l'écoute attentive de la parole de Dieu, qui vient me toucher, parfois me dénoncer, m'inviter toujours à revenir à Jésus, à revenir à l'Évangile, usant de ce sacrement de la pénitence et de la réconciliation. C'est là que la toute-puissance de Dieu, comme nous l'avons dit dans la prière d'ouverture de la messe, se manifeste à son plus haut point. Non pas lorsque Dieu a libéré à main forte son peuple de l'esclavage d'Égypte, et c'était déjà un signe prodigieux que Dieu intervient dans nos vies, mais à travers le pardon qui nous a acquis dans l'humiliation de la passion et de la mort sur la croix. Manifestons que le Christ est ressuscité en allant sans cesse déposer notre misère de pécheur devant le prêtre indigne qui a reçu ce pouvoir de pardonner les péchés, de nous miséricordier, d'être toujours sûr, convaincu que le Seigneur nous aime, qu'il ne nous juge pas, qu'il ne nous condamne pas sur le chemin de notre conversion pour devenir des témoins toujours plus authentiques. Il y a ce beau sacrement de la pénitence et de la réconciliation que le pape François veut remettre au cœur de cette année jubilaire qui s'avance sous le signe de l'espérance. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui comme au Sénat, en ce temps-là. Il y avait les apôtres, il y a ici le successeur des apôtres pour vous. Il y avait les prêtres, il y avait les disciples de la première heure, hommes et femmes. Parmi ces disciples, hommes et femmes, une seule est nommée. Elle a un primat dans la vie de l'Église. C'est la Vierge Marie. Marie était là en prière. Elle priait de manière tellement intense que le cœur des disciples qui étaient rassemblés autour d'elle se dilatait et se disposait à recevoir ce grand don de l'Esprit Saint. Nous sommes au Cénacle. Marie est au milieu de vous. Marie est au milieu de nous. Prions avec elle, prions-la pendant cette messe pour qu'elle ouvre notre cœur au don de l'Esprit Saint et nous propulse de manière nouvelle et ardente sur le chemin de la mission.
Au cours du congrès mission à Navarinx, de magnifiques témoignages ont été entendus, comme celui d'Inès. Donc Inès, vous avez témoigné de votre conversion, de votre foi à une des tables rondes de ce congrès mission. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, comment vous avez été amenée à venir à ce congrès mission?
Oui, bonjour Violaine. Alors moi, c'est Inès Benhamida. J'ai 36 ans, je suis professeure des écoles et je suis maman d'une petite fille aujourd'hui de 5 ans. Voilà, et puis je suis maman solo.
Vous avez donc vécu une conversion, c'est ça que vous avez raconté. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots?
Oui, tout à fait. Alors moi, je suis, comme mon nom l'indique, je suis d'origine maghrébine, donc mes parents sont d'origine tunisienne. Je suis née à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, j'ai grandi une vie plutôt tranquille. J'ai fait l'école primaire, le collège et le lycée à Orthez. Voilà, bon, un peu étriquée dans cette famille musulmane parce que voilà, comme cette foi le veut, voilà, il ne faut pas trop déroger à la règle. Donc moi, je me suis sentie un peu bridée. Et puis à l'âge de 18 ans, je pars faire mes études supérieures à Bordeaux. Et là, malheureusement, je suis tombée dans le monde. Donc dans cette quête de liberté, je suis tombée un peu dans les ténèbres. C'est-à-dire que j'ai commencé... à sortir, à boire. Alors bon, on ne peut pas dire que j'étais une festaire de tous les week-ends, mais bon, cette vie-là, j'avais l'impression d'être libre. Et puis je rencontre mon premier amour. Je reste chaste parce que bon, quand même, j'avais cette volonté. J'ai toujours été croyante, j'avais cette volonté quand même de respect de l'autre, de respect de moi-même. Donc du coup... avec ce que j'avais quand même reçu, parce que j'ai quand même reçu de belles valeurs, il n'y a pas tout à jeter dans l'islam. Et donc là, je décide de rester chaste avec ce compagnon pendant un an, mais malheureusement, la relation est devenue sérieuse et du coup, je suis tombée dans la fornication avec cet homme. Donc on s'est fiancés en Tunisie, parce qu'il était aussi d'origine tunisienne. Et suite aux fiançailles, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte en fait que j'étais avec cet homme parce qu'il répondait aux attentes de mes parents, parce que c'était la facilité. Il vivait en France, il était d'origine tunisienne, il était ouvert d'esprit. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait. Donc du coup, je décide de tout plaquer, de quitter cet homme. Et le diplôme de master en poche, je n'avais pas le concours d'instit à l'époque et du coup je repars chez mes parents. Je voulais pas rester entre quatre murs enfermée. Donc là, je deviens surveillante dans un collège. Je reste dans ce collège pendant 5 ans. J'y travaille à Salis de Béarn. Et au bout de ces 5 ans, je redécide de tenter le concours. Et du coup, là, me voici en région parisienne avec le concours en poche. Et je deviens instit. Et là, en fait, je rencontre le papa de ma fille. Malheureusement, lui par contre dérogeait complètement à la règle, c'est-à-dire que c'est un français, maman française, papa martiniquais, mat de peau, tatoué, papa de 2 filles d'une précédente union. Enfin voilà, donc tout ce qui ne correspondait pas du tout aux attentes de mes parents. Et donc du coup, je décide de cacher cette relation à mes parents. Par contre, mes frères sont au courant. Donc je l'ai rencontré en juillet. Au mois de juin, je tombe enceinte par surprise. Et là, je suis obligée d'être dans la vérité et de dire à mes parents que je suis amoureuse et en plus que j'attends un enfant de cet homme. Donc là, du coup, douche froide pour mes parents. Donc j'ai mes parents qui m'ont quand même renié. Mon père m'a traité de pute et de honte de la famille. Voilà, ma maman était complètement perdue, déboussolée. Et là, je subis pendant un mois quasi du harcèlement quotidien en me demandant d'avorter. J'ai été en lutte parce que j'avais quand même... au fond de moi, j'étais tiraillée. Je voulais avorter pour sauver l'honneur de ma famille, mais en même temps... J'avais ce désir de devenir maman un jour, donc je décide de garder ma fille qui a aujourd'hui 5 ans, gloire à Dieu. Et donc voilà, donc je redescends en région toulousaine où est le papa de ma fille. Et on vit notre petite vie. Bon, je suis quand même tombée en dépression. Enfin voilà, ça a quand même causé des dégâts dans ma vie. Mais je reste avec cet homme et je suis ma grossesse. Sauf que, en fait, cet homme-là est né d'une union où il y avait de la violence conjugale. Et lui-même, j'ai envie de dire, a reproduit le schéma sur moi. Donc, bah, au début, c'était les portes et les murs qui prenaient des coups. Et au final, ça arrivait sur moi. Jusqu'à la nuit du 21 au 22 janvier 2022, où là, j'ai subi une scène de torture. Donc cet homme, qui est le papa de ma fille, m'a violentée sexuellement et physiquement. Donc ben là, j'ai eu peur pour ma vie, je me suis échappée de la maison et je suis allée porter plainte dans le commissariat de la ville où on habitait. Il a été mis en garde à vue pendant 48 heures et il y a eu une mesure d'éloignement pendant un an. Et là, j'ai vu ma vie s'écrouler comme tel un château de cartes. Et je me retrouve dans notre chambre, dans notre suite parentale, dans notre maison, une maison où j'ai senti un véritable vide. On avait beau avoir notre situation professionnelle, notre vie matérielle bien rangée. Là, j'ai senti le vide vraiment intersidéral, j'ai envie de dire. Et là, je me suis retrouvée à genoux en suppliant Dieu, parce que j'avais quand même cette foi intérieure qui était là, même si elle était étouffée par la vie que je menais. Je me suis retrouvée les deux genoux à terre en disant à Dieu, écoute, si tu existes vraiment, envoie-moi un signe, parce que là, en fait, je vais mettre fin à ma vie, je vais mettre fin à mes jours. Je visualisais le tiroir rempli de médicaments au rez-de-chaussée, je me voyais engloutir tous les médicaments pour mettre fin à mes jours. Je me voyais vraiment partir. Et en fait, en levant les yeux au ciel, j'ai vu la Vierge Marie dans les nuages. Et là, j'ai senti un élan me lever. Donc, je me suis levée et j'ai dit OK. Bon, ben, Marie, je peux croire en elle parce que Marie est aussi dans l'islam. Donc, je peux croire en elle. Donc, OK, Seigneur, je prends ça pour un signe. Donc, à partir de là, je commence à me poser des questions. Alors, on avait des problèmes de couple. J'étais tombée dans l'ésotérisme. Suite à ces problèmes de couple, avec mon ex-époux, on était allé voir tout ce qui est magnétiseur, voyance. J'avais mon premier niveau de Reiki. J'avais fait une première initiation au pendule. Je tirais les cartes, le tarot de Marseille. Donc, j'étais tombée dans l'ésotérisme. Et ce magnétiseur m'avait donné des prières au nom de Jésus à faire. Et donc quand je me suis retrouvée dans cette situation familiale, je me suis souvenue de ces prières et je les ai prises et j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre sans faire ces prières. Donc je me suis mise à prier au nom de Jésus. Tant pis, je me suis dit faut prier quelque chose, j'ai que ça sous le coude, donc je vais prier ça. Et tout ça pour dire qu'en fait on était tombé dans l'ésotérisme parce qu'on supposait que... Enfin, le magnétiseur nous avait dit qu'il y avait de la magie noire autour de notre couple, c'est pour ça que ça allait si mal. Un jour on allait bien et puis 10 autres c'était la guerre. Donc voilà, donc du coup mon ex-mari m'avait inscrite au catéchuménat pour adultes. Et j'avais fait une demande de baptême parce que la voyante m'avait dit que peut-être que la magie s'atténuerait et disparaîtrait avec le baptême et mon entrée dans la foi chrétienne. Donc je cheminais en ce sens-là, mais c'était plus des prières de protection. C'était pas une réelle rencontre avec le Christ. Voilà, donc du coup, je suis en chemin, un pied à l'étrier, on va dire. Et sur ma route, le Seigneur a mis plusieurs personnes, dont mon parrain actuel, qui est animateur catéchuména, qui lui, un jour, m'a proposé une retraite. Je ne savais pas ce que c'était une retraite spirituelle dans la foi catholique, donc je lui dis, j'en sais rien, mais enfin, je ne sais pas de quoi tu me parles. Il me dit, écoute, ça te ferait le plus grand bien, je pense. Et donc, du coup, je dis, oui, mais bon, je m'en trouve maman solo avec des traites, je n'ai pas d'argent, j'ai à peine pour vivre. Il me dit, fais un choix, mais voilà, sache qu'il y a cette possibilité-là. Et donc, en fait, je vais sur mon compte bancaire, et là, je vois que le montant qui me reste sur mon compte bancaire est exactement la somme que je devais donner à la communauté pour que je puisse faire cette retraite. Et mon anniversaire avait eu lieu 2 jours auparavant. Et je sens dans mon cœur, fais-toi ce cadeau, tu le mérites. C'est un cadeau que tu peux te permettre. Regarde, tu as l'argent et tu vas recevoir ta paye le lendemain. Donc, octroie, vraiment, fais-toi ce cadeau. Donc je décide de me lancer parce que je connaissais personne en fait. J'ai fait la route avec 5 personnes dans la voiture dont je ne connaissais, enfin je connaissais que le prénom de Fabrice, mais tous les autres je ne les connaissais pas. Et je me retrouve à faire 8 heures de route pour aller à cette fameuse retraite à l'île Bouchard. Et donc je vais jusqu'à là-bas. Donc bon, dans la voiture on parle d'ésotérisme, on parle de Jésus. Bon, je suis muette tout le long du chemin. Arrivée à la retraite, je commence à avoir des pleurs. Donc que ce soit pendant les temps de louange, pendant les temps d'exhortation, pendant les temps d'enseignement. Il y a un témoignage du diacre actuel de ma communauté, qui à l'époque n'était pas diacre, mais il témoigne de sa vie. Et là, je fonds en larmes de la puissance qu'a eu Jésus dans sa vie. Et là, je commence à me poser des questions, à me dire, mais en fait, ce Jésus dont tout le monde parle, ben, en fait, effectivement, c'est possible qu'il fasse des merveilles. Je finis la retraite vraiment en larmes. J'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Et je finis du coup la retraite avec une prière que les frères ont fait sur moi. Et à cette prière, en fait, le modérateur du groupe me révèle deux secrets que j'avais, que personne ne connaissait à part mon ex-mari. Et en fait, il me dit « Inès, tu as avorté ?» Et donc je dis « Oui ». Et puis là, il me regarde et il me dit « Et pas qu'une fois ». Je le regarde et en fait, dans mes yeux, j'étais là, mais comment tu sais ça, quoi? Personne ne sait ça. Et là, je me retrouve à genoux, à pleurer, mais à pleurer. Alors que ces actes, quand je les ai faits, j'avais pas forcément conscience de l'ampleur que ça avait pu avoir sur ma vie. Et donc, je me retrouve à pleurer, pleurer, pleurer. Et donc là, les frères prient sur moi et là, ils me disent, mais tu sais, Inès, tu étais dans les ténèbres, mais prie au nom de Jésus et il va t'amener vers la lumière. Prie au nom de Jésus. Et donc voilà. Et depuis ce jour, Jésus ne m'a pas quittée. Je suis rentrée chez moi en région toulousaine. J'ai jeté tout ce qui était ésotérisme. J'ai brûlé tout ce qu'il y avait à brûler. J'ai cassé tout ce qu'il y avait à casser. Je fumais 2 clopes par jour à l'époque. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Et depuis ce jour, je fais des retraites dans ma communauté. Je vais tous les dimanches à la messe. Je pratique le chapelet quotidiennement. Gloire à Dieu. Et voilà, le chapelet a été vraiment une arme décisive dans ma vie. Il m'a transformée, il a fait la dame que je suis actuellement, la maman que je suis actuellement. Et voilà, je rends grâce à Dieu pour tout ça. Donc j'ai fait ma première communion, j'ai été baptisée à la veillée pascale par immersion. Là c'est pareil, ça a été une véritable grâce. J'ai été la première adulte à être baptisée par immersion dans ma paroisse. 3 semaines après, je faisais ma première communion et le 11 novembre, j'ai été confirmée par l'évêque de ma paroisse. Voilà. Et puis ma fille a été baptisée également à Pâques 2024. Et le Seigneur m'a gratifiée dans le sens où, lors d'une épreuve, j'ai été gravement malade en février 2024. J'ai offert mes souffrances. En fait, j'avais eu un enseignement qui disait qu'il fallait offrir ses souffrances au Seigneur. Offrir ses souffrances, ça peut sauver des âmes, ça peut porter beaucoup de fruits, donc j'ai eu dans le cœur de faire ça. Et quand je me suis rétablie de tout ça, enfin sur mon lit d'hôpital, à la suite de la chirurgie et en étant en grande souffrance, j'ai offert mes souffrances, j'ai fait un chapelet avec ma marraine de confirmation à l'époque, parce que je n'avais même pas la force de prier. Et ma belle-sœur m'a envoyé un message en me disant « Inès, c'est toi qui avais raison, je décide moi aussi de suivre Jésus et Marie ». Elle qui se prétendait guérisseuse, à fond dans l'ésotérisme également. Donc je rends grâce à Dieu et mon frère a été converti par la suite au baptême de ma fille. Donc voilà, tout ça pour dire que Jésus, c'est lui le chemin et la vie. Et accrochez-vous à lui, il ne vous lâchera pas en fait.
Merci beaucoup Inès pour ce beau témoignage. Juste une question, vous avez accepté de témoigner, c'est très courageux. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ?
Alors j'ai eu dans le cœur, alors je ne vous cache pas que témoigner au tout début de ma conversion a été très dur. Beaucoup de gens me demandaient qu'est-ce qui a fait que je puisse passer de musulmane à chrétienne. Et j'ai eu dans le cœur ces derniers temps, j'écoute pas mal d'enseignements qui disent qu'en fait dans les temps difficiles dans lesquels on est, on se doit en tant que disciple et apôtre du Christ, après avoir tant reçu, parce que j'estime avoir reçu la vie, c'est la vie, la joie du Christ que j'ai reçue. Et en fait je me dois en tant qu'apôtre et disciple du Christ de parler en tant qu'instrument du Christ, parce qu'en fait c'est pas moi qui vous parle, c'est l'Esprit Saint à travers moi, c'est Jésus à travers moi qui veut sauver la petite brebis égarée. Voilà, donc à toutes les brebis égarées, n'ayez pas honte de votre vie, n'ayez pas honte de votre passé, mais regardez devant vous et accrochez-vous au Christ. Il est miséricordieux, il est amour et tout ce qu'il veut c'est vous sauver.
Olivier Fournier, vous êtes un des organisateurs de ce congrès mission à Navarreinx. Vous êtes sur cette paroisse. Qu'est-ce que vous attendiez de ce congrès? Et pour l'instant, est-ce que vos objectifs sont atteints?
Alors oui, nos objectifs sont très largement atteints. Je dirais même que ça va au-delà de nos espérances. Ce qu'on attendait, c'était faire église, c'est-à-dire se retrouver entre chrétiens, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la fraternité, qu'il y ait du service, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait de la prière, qu'il y ait des temps de louange, qu'il y ait du recueillement aussi. Et je crois que tout ça, on l'a eu, donc super content.
Vous êtes heureux. Comment vous avez eu l'idée d'organiser ce congrès mission ici à Navarreinx, sachant qu'au départ, c'était plutôt quelque chose de national?
Alors, nous étions allés à un congrès mission à Orléans il y a quelques années, et donc à ce titre-là, ils avaient notre adresse mail, et donc on avait eu l'info que cette année, le congrès mission serait dit local, donc éclaté dans toute la France. Il suffisait de lever la main et de dire, en fait, moi je veux y aller. Et nous, avec une petite équipe de laïcs, et en accord avec le curé de la paroisse, on s'est dit, allons-y. Et assez rapidement, en fait, Monseigneur Ayer a dit ça va être le congrès mission du diocèse. Voilà. Donc, d'une initiative très locale, petite ville, 1000 habitants à Navarreinx, on est devenu le congrès du diocèse.
Comment est-ce que vous avez fait pour l'organiser si vite? Parce que je crois que ça ne fait pas très longtemps que vous êtes dans cette paroisse. Est-ce que vous avez réussi à fédérer la paroisse autour de ce projet?
Alors, on s'y est mis en avril-mai, je crois. Comment on a fait? On a introduit un peu de méthode pro, si je puis dire, un peu de conduite de projet. Il se trouve que moi, c'était mon boulot auparavant. Et puis, on y a assimilé beaucoup de diversité. C'est-à-dire qu'on a veillé dans l'équipe à avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes de la paroisse, mais aussi des personnes de Pau, de Bayonne, d'Oloron, d'Orthès. Voilà, pour nous, c'était important. Et cette méthode de conduite de projet, évidemment, elle est venue au service d'un projet qui se voulait missionnaire. Et donc, on a aussi inscrit tout ça, évidemment, dans la prière, voilà, beaucoup. Nous et des équipes de prière autour qui ont prié pour le congrès aussi. Ouais.
Vous pensez que ça va changer les choses dans votre paroisse? Comment vous imaginez la suite?
Alors, vaste question. Alors, d'abord, on se parle de toutes les paroisses du diocèse, vu que c'est le congrès du diocèse. Moi, ce que j'espère, c'est que les personnes aient été touchées et que si elles ont ressenti un appel à entreprendre ou à rejoindre telle ou telle action missionnaire, qu'elles répondent à cet appel. Voilà. Et donc nous, concrètement dans la paroisse, évidemment, j'espère la même chose. Il y a déjà pas mal de choses qui existent en réalité, mais je suis sûr qu'on peut continuer à faire toujours mieux d'une certaine manière. Alors c'est pas la compétition à l'efficacité, hein. Le but du jeu c'est d'être fécond, mais je pense qu'on peut être encore plus fécond, et donc on va être à l'écoute de ce que nous dit l'Esprit Saint pour voir ce qu'on fait maintenant dans les semaines à venir.
Concrètement, ça veut dire quoi être missionnaire en fait?
Alors être missionnaire, nous de notre point de vue, enfin du point de vue de l'équipe organisatrice, on l'a réduit à deux choses pour que ça soit clair, c'est annoncer Jésus et annoncer l'Évangile. Voilà. Et après chacun à la relation qu'il doit avoir avec Jésus, est nourri comme il doit être nourri par l'Évangile. Et ça devient une démarche personnelle. Mais en revanche, ce qui est notre responsabilité, c'est de l'annoncer. Voilà. Si on ne l'annonce pas, il y a des gens qui connaîtront jamais Jésus. Et ça, c'est trop triste.
Thank you.
Alors monsieur, vous êtes de quelle paroisse?
Alors moi je viens de la vallée d'Aspe, de la paroisse de Sarens.
Ok, vous êtes venu donc jusqu'ici pour ce congrès mission.
Oui, moi, je ne suis pas venu seul.
Qu'est-ce qui vous a motivé?
Qu'est-ce qui m'a motivé? Parce que, en fait, je pense que c'est important justement de se poser la question de comment aujourd'hui, dans notre société, dans le monde dans lequel nous vivons, comment pouvoir témoigner de ce que nous vivons, de pouvoir témoigner notre foi. Alors, évangéliser, c'est un grand mot, hein, ça prend différentes formes, mais bon, voilà. Ça m'intéressait de découvrir ce qui se vit dans le diocèse, parce que moi je viens du diocèse de Toulon-Fréjus, donc Monseigneur Marcaille aussi d'ailleurs, et donc je voulais un petit peu voir ce qui se vivait dans ce diocèse et comment les gens, ce qui les motivait, mais pour me motiver moi aussi, hein, parce que j'étais très impliqué dans la paroisse d'où je viens, dans le Var. Mais ici, maintenant, je me retrouve dans un cadre montagnard, un petit village, donc c'est complètement différent. Donc je venais aussi un petit peu chercher des idées, des motivations pour, à mon tour, pouvoir justement participer, entre guillemets, à la nouvelle évangélisation et peut-être dynamiser un peu notre paroisse. Bon, elle n'est pas très importante, hein, c'est dans la vallée, il y a 2500 habitants, 13 villages. C'est une petite communauté, mais il y a certainement des choses à faire. Mais là, on a l'exemple d'une famille, d'une maman avec ses enfants qui s'implique énormément. Donc c'est aussi une façon de la soutenir.
Tout à fait. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans ce congrès, vous qui avez assisté aux deux journées?
Tout était intéressant, mais comme je le disais tout à l'heure, là, j'ai échangé avec une jeune maman qui m'a posé la question, c'est les témoignages. Justement dans la paroisse d'où je viens, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis plusieurs années. Cette dynamique qui est créée souvent par des témoignages. Et là, j'ai entendu de très beaux témoignages et voilà, ça me touche toujours énormément. Et de voir que des gens sont capables et puis ont bien compris qu'il était important de pouvoir donner leur témoignage de vie et de la façon dont ils ont rencontré Jésus et ce que Jésus a fait dans leur vie. Donc c'est toujours beau de pouvoir rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il fait dans les familles, dans les couples, dans notre vie de tous les jours. Voilà.
Donc vous repartez dans votre paroisse reboosté avec plein d'idées?
Complètement, oui. Alors des idées, on en a toujours. On essaye de vivre avec un petit groupe là, dans notre paroisse qui se réunit tous les dimanches matins. Mais je sais qu'on peut faire mieux, c'est sûr. Voilà, reste à savoir comment mettre en place d'autres méthodes, d'autres outils. On va y réfléchir. Puis il y avait un des frères de la communauté de Prémontré qui était là. Donc je pense qu'on va échanger et qu'on va réfléchir à la façon de dynamiser un peu la vallée. Je pense que ce sera pas simple, mais voilà.
C'était le congrès mission qui s'est déroulé à Navarinx le 28 et 29 septembre dernier. Deux journées pleines de joie pour prier et échanger sur la mission. Retrouvez photos et reportages sur le site du diocèse www.diocèse64.org.